gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu sur le 102.2 à Lyon et partout ailleurs et sur radiocanu.org et c'est le retour au direct avec la causerie qui commence et ce soir la causerie il y a dans les studios à la technique Clara.
Bonsoir.
Et Fab.
Bonsoir et Jean-Yves qui a fait l'ouverture. Et moi je suis content parce qu'il vient d'arriver à Clara un truc qui m'est arrivé la dernière fois. Oui, le générique est reparti après.
Non, c'est pas ça.
Hein, c'est pas ça? Oh, c'est pire que ça, alors. Tant pis. Et tu veux pas nous dire ce qui s'est passé?
Je pense que ça n'intéresse pas les
oui. On s'en fout. Oh d'accord, allez, c'est parti.
Ok. Eh ben alors, pour la causerie, pour nous joindre, vous pouvez nous écrire pour tout, pour donner votre avis, pour nous demander si vous avez envie de passer à la causerie, si vous êtes artiste, une asso, etc., etc. Pour nous joindre, c'est la causerie canu, tout attaché, hein, lacauseriecanu@gmail.com. Et si vous voulez retrouver toutes les causeries qu'il y a déjà eu depuis toutes ces années, eh ben, vous allez sur le blog de la causerie qui se trouve à l'adresse blogs, donc au pluriel, .radiocanu.org/la causerie et vous y retrouverez toutes les émissions mais aussi les différentes infos qu'on a pu filer à chaque fois dans les causeries etc etc et on peut peut-être faire un petit bisou à Stan.
Ah oui,
parce que Stan aurait dû être là ce soir et puis
il est malade.
Il est malade. Voilà, alors des bisous de loin à lui.
Voilà. Ça arrive hein.
Ben oui, ça arrive.
Même au dernier moment.
Même là. Au meilleur.
Voilà.
En premier sujet, c'est Fab, tu veux nous parler d'un site internet, c'est bien ça?
Ouais, je vais vous parler d'un site internet qui fait de la vulgarisation scientifique. Et histoire que ce soit bien compliqué pour vous trouviez son adresse, l'adresse c'est vulgarisation.fr. Voilà, donc on peut dire que c'est ultra compliqué pour trouver un site qui fait de la vulgarisation scientifique.
Effectivement.
Alors, qui est derrière ce site? Eh ben, c'est une équipe qui s'appelle La Physique Autrement, hein, qui est issue du laboratoire de physique des solides et qui développe une activité de recherche sur de nouveaux modes de vulgarisation et d'enseignement de la physique vers le grand public et le monde éducatif et associatif. Voilà. Donc, vous aurez noté que c'est intéressant, c'est qu'ils font de la vulgarisation un sujet de recherche. C'est-à-dire que c'est de se rendre compte qu'au bout d'un certain nombre d'années, eh ben, en fait, les scientifiques se sont enfermés un peu dans une bulle qui fait que le commun des mortels ne comprend plus vraiment pourquoi ils existent et à quoi ils servent et que du coup ils trouvaient ça un peu dommage, donc ils se sont dit réfléchissons, c'est ça un sujet de recherche en fait, réfléchissons en commun à comment on va pouvoir vulgariser la physique. Voilà.
Alors, pour transmettre le savoir,
ouais,
quoi,
tout simplement.
Pour que ça reste pas dans un vase clos ou réservé uniquement aux gens qui vont dans ces études spécialisées, etc.
Exactement. Alors l'équipe, elle est dirigée par le professeur Julien Bobroff et le maître de conférence Frédéric Bouquet. Il y a aussi beaucoup d'intervenants, mais je vais pas toutes et tous les citer ici parce que franchement, il y a une grande liste et je vous invite à aller la voir. Cette très longue liste sur le site, surtout que vous avez les spécialités des uns et des autres qui sont qui sont à côté de leur nom. Et ça permet comme ça de voir qu'eh ben, il faut intervenir vraiment d'un panel très très large de gens qui ont un lien avec la physique. Alors le but, ben, comme je l'ai dit, c'est de rendre la physique accessible. Et la physique, ben, en fait, c'est très large, hein, parce que ça va du froid en passant par la physique quantique, le temps, les lasers, les notions de solide, la mémoire quantique, des notions si complexes que finalement, on n'a pas l'habitude de manier. Mais en fait, eux, ils vont arriver à les rendre visuellement explicables, comme ils disent. Je vais vous expliquer un petit peu comment ils font. En fait, c'est un gros pari qu'ils ont pris, c'est rendre accessible la science sans la rendre rébarbative. Voilà, mais sans cacher les équations. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous expliquer les choses, mais sans vous prendre pour des demeurés. C'est-à-dire qu'on va vous mettre les équations que vous ne comprendrez pas, sauf si vous avez fait de la physique. Mais on va vous expliquer à quoi chaque facteur, par exemple, correspond, pourquoi ils sont importants. Voilà. C'est un peu, si vous vous souvenez, ce que Georges avait fait dans l'émission sur les mondes possibles ailleurs, enfin la vie ailleurs, où il avait démontré une équation, sur le nombre probable de.
Sur les probabilités.
Et à la fin, il avait dit, en fait, elle est interprétative. Cette expression-là, et en fait, bah, c'est exactement ce qu'ils font. Ils vous expliquent que y en a qui qu'on peut interpréter, d'autres qui sont figées, c'est-à-dire que elles sont toujours vraies, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas interpréter le résultat, voilà. Et en fait, ils y arrivent à mes yeux assez brillamment à rendre tout ça accessible, et notamment parce qu'ils font appel à plein de domaines. Des designers, des dessinateurs, des animateurs, c'est les gens qui font des petits dessins animés. Ils font aussi appel à des conteurs, donc des gens qui ont une capacité à raconter des choses ou à transformer les choses en contes, par exemple, pour y rendre plus accessible. Il y en a un que j'ai en tête, là, c'est sur le zéro absolu, par exemple, où il y a un super beau conte d'un squelette et d'un bonhomme de neige pour vous expliquer la différence de froid, de ressenti et de c'est quand le zéro absolu. Voilà, okay. Je vous laisserai découvrir, hein, parce que je n'ai pas tout vous raconté. Donc voilà. À la causerie, d'ailleurs, on essaye souvent de parler de science, et nous, on le fait à travers la voix, c'est-à-dire on utilise la radio, et que ce soit dans les chroniques, dans les émissions ou dans les émissions astronomiques de Georges aussi. Alors on sait tous que l'exercice n'est pas simple et surtout que parfois on se plante. Alors moi je me rappelle personnellement avec émotion de ma tentative d'expliquer les quarks à la radio,
c'est vrai.
Qui fut un beau cassage de gueule. Et voilà, et je me dis c'est pas un exercice facile de vulgariser la science, surtout quand on maîtrise pas totalement le sujet. Or là l'avantage c'est qu'ils maîtrisent totalement le sujet ou vraiment plus que nous. À la causerie.
Ouais, et ils sont aussi sur un support qui est différent finalement.
Ouais.
Parce que, enfin, je pense que la science sans
le
à côté,
visuel. Ouais.
Justement de visuel à la radio,
c'est compliqué.
C'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on met aussi des petits dessins, etc. Quand Georges nous apporte quelques principes, etc.
Par exemple, ouais, tout à fait. D'ailleurs, l'équipe de la physique autrement, ils le disent, ils prennent une autre option qui est tout aussi passionnante à mes yeux. Hein. En fait, ils mélangent des cracks de leur discipline, je mets des guillemets, donc des très très bons dans la discipline, mélangés à de la vulgarisation par l'image, le son ou le dessin. Ou les trois, ou tout en même temps. Donc en fait, c'est un petit peu plus, entre guillemets, simple, mais c'est aussi un petit peu plus casse-gueule, parce que quand on y réfléchit, plus on multiplie les supports, et plus en fait, il faut à chaque fois repenser comment, par le support donné, on va passer une information. Donc c'est assez passionnant ce qu'ils font, et moi, je voulais vous le présenter pour ça. Mais je vais vous décrire un petit peu plus ce qui se passe. Donc déjà, il y a aussi plusieurs parties sur le site qui sont, à mon avis, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Ça grince beaucoup quand on touche un micro. Donc voilà, qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Mais par contre, qui ne sont pas orientées pour les mêmes personnes. Donc par exemple, il y a une partie qui est plutôt orientée pour les profs, en général, ou les gens qui font de l'éducation populaire, d'ailleurs aussi. Donc elle va être plus orientée sur des outils de formation, ce qu'on appelle des workshops, c'est-à-dire des bandes de démonstration, ou aussi des outils de vulgarisation pour se mettre à la hauteur des élèves. Alors, en fonction de l'âge, par exemple, en fonction de leurs connaissances, en fonction aussi du milieu de lequel ils viennent, parce qu'on vous parlait à des élèves de littéraire, par exemple, vous leur parlez pas de la même façon que quand vous parlez à des gens qui font science, parce qu'ils ont pas les mêmes bases. Donc c'est tout bien séparé et bien expliqué sur comment en fait vous pouvez ramener quand même vos élèves ou vos apprenants, on va dire au sens large, en vous mettant à leur niveau sans les prendre pour des imbéciles, parce que c'est vraiment l'idée de ce site, c'est de partir du principe qu'on est tous armés d'un cerveau et donc on peut tous s'en servir, même si des fois il faut plus de temps pour rallumer le cerveau sur certaines choses que sur d'autres, et que c'est pas bien grave, mais qu'on prend le temps. Et d'ailleurs je trouve leur site très bien fait, parce qu'ils parlent souvent de la notion du temps. Alors pas que la notion du temps en physique, mais aussi la notion du temps qu'il faut pour transmettre une information. Donc d'ailleurs, ils ont même mis en place pour les profs des travaux pratiques en BD. Voilà. D'accord. Et ça, je trouve ça vachement cool, parce qu'expliquer la physique quantique, par exemple, par une BD, c'est vachement plus simple que de faire un tableau, de se mettre un tableau noir et de commencer à dessiner, de dire alors voilà, la physique quantique, c'est ça. Il y a un chat dans une boîte, il y a Schrödinger qui a dit tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on sait qu'il est toujours vivant ou pas, mais peut-être il est mort, donc on ne sait pas trop. Et ça, et c'est très casse-gueule quand on parle là-dessus. Alors qu'en fait, quand on fait la BD, et d'ailleurs la BD est très drôle parce que c'est, ils inversent le truc, c'est le chat qui torture Schrödinger, ça change un peu. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très marrant. Pour les néophytes aussi, que nous sommes tous, hein, il y a une section spécifique pour nous. Voilà, ben, et c'est intéressant parce que vraiment c'est sur orienté plutôt grand public, on va dire ça comme ça. Et c'est pas, et oui, ils le mettent pas du tout comme quelque chose de négatif, le grand public. C'est plutôt l'idée, bah, s'orienter à des gens qui manipulent pas la.
Tu veux dire mainstream ?
Non, justement, alors ils évitent beaucoup ce mot-là.
Parce bah que, oui, parce que c'est devenu quelque chose de très péjoratif.
Voilà, en fait. Alors qu'en fait, c'est pas du tout l'orientation. Et j'ai remarqué qu'ils faisaient très attention sur leur site à la façon dont ils utilisaient, y compris les mots, c'est-à-dire comment en fait on parle aux gens et comment on présente des choses. Et je pense que leur notion de grand public, c'est comment en fait on rend accessible au plus grand nombre. C'est vraiment leur idée. Et donc en fait, c'est un espace où il y a des vidéos, des dessins animés, si si, vraiment des dessins animés, de la BD, voilà, qui nous rend plus intelligentes et intelligents. Voilà, c'est-à-dire que vous les lisez, à la fin vous comprenez des concepts qui peuvent vous paraître très très éloignés de ce que vous faites tous les jours, mais qui en fait ne sont pas si compliqués que ça une fois qu'on vous les a exposés. Évidemment, vous n'allez pas devenir des grands chercheurs en physique des solides en moins de 2 jours, ça c'est pas possible, mais vous allez comprendre certaines choses. Par exemple, on va vous expliquer de façon très simple ce qu'est le zéro absolu, dont parle régulièrement Georges dans ses émissions, qui est à moins 273,15 degrés Celsius, soit 0 degré Kelvin. Et on va aussi vous expliquer pourquoi on ne l'atteindra peut-être jamais, même si aujourd'hui on se trouve à 0,00015 degrés Kelvin du zéro absolu. Voilà, on arrivait à descendre jusque-là. Alors comme ça, voilà, je vois Jean-Yves, il me regarde, il me fait « Ouais, ça veut dire quoi ?» Eh bien, c'est simplement le zéro absolu, le moment où la matière ne bouge plus du tout. C'est le moment où plus rien ne se produit, plus rien ne se fait. Donc, théoriquement, si on arrivait à cet état-là, on peut figer complètement un élément. D'accord. Voilà, il ne va plus se dégrader, il ne va plus bouger, il ne va plus rien se passer. Et d'ailleurs, c'est à ces températures-là, je vous laisserai aller voir la vidéo, où se passent des phénomènes presque surnaturels, comme on dirait surnaturel, mais en fait, par exemple, c'est là qu'on peut avoir la suspension. Mais ce n'est pas du tout surnaturel, c'est physique, justement. Et c'est là qu'il vous explique, justement, qu'il n'y a rien de surnaturel, c'est de la physique pure, et que ça s'explique, et qu'il n'y a pas de magie. Voilà, et par exemple, c'est là que vous voyez des objets léviter au-dessus du froid. Vous savez, vous avez déjà vu ? C'est comme ça qu'on fait léviter des trains aussi. Voilà, j'invite vraiment à les voir, ben, c'est sympa. On pourra aussi vous expliquer comment fonctionnait le laser et pourquoi Wolverine il perdrait toujours face à Cyclope dans les X-Men. Voilà. Non mais c'est l'exemple qu'ils prennent et je trouve que c'est très bon parce qu'un laser ça va très vite. On va vous expliquer aussi une petite histoire de la physique quantique, hein. Donc on va vous raconter la physique quantique, d'où ça vient, qui a eu l'idée un jour de se dire bah tiens en fait la matière elle n'est qu'énergie et l'énergie n'est que matière, alors donc à un moment donné bah c'est plus de l'énergie que de la matière. C'est un peu je résume rapidement. Ouais.
Et moi je vais résumer encore plus rapidement. La physique quantique, c'est celle qui dit genre on a une chance sur je sais pas combien de millions de traverser un mur, non ?
Par exemple. Et d'ailleurs il y a une très belle BD sur le fait que si vous courez à une vitesse donnée selon un axe donné, vous avez une chance sur tant de millions de traverser le mur parce que toutes les molécules vont s'écarter au même moment. Bon, faut avoir envie de tenter l'expérience des millions de fois, voilà. Mais il y a une BD justement qui explique ça assez bien, je trouvais ça pas mal. Mais par contre ce qui est intéressant, c'est qu'ils font toujours le lien avec nos modes de vie. En quoi en fait la physique quantique va révolutionner dans les années à venir nos modes de vie ? Parce qu'on va créer des ordinateurs quantiques qui vont aller de plus en plus vite pour faire les calculs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des ordinateurs dits physiques, c'est-à-dire avec des électrons qui se baladent. Mmh. Donc quand on passe au mode quantique, bah, ça je vous laisserai aller voir parce que je vais pas vous faire un résumé, bah, en fait on va plus vite tout simplement. Et okay. D'ailleurs ça va aussi accélérer Internet. Voilà. Et ça va aussi accélérer les communications interspatiales. C'est-à-dire que tout ça en fait peut avoir un impact sur nos vies dans les années à venir. De la même façon, on va avoir un petit truc dans la section tout public, grand public, sur la physique dans les films. Et avec des vidéos faites par des étudiants, et je vous invite à voir parce qu'ils sont vraiment pas comédiens, mais ils y mettent vraiment du cœur, et je trouve ça vachement chouette d'être allé au bout de la démarche. Alors, par exemple, un sabre laser, c'est possible ou pas ? Ah là, c'est comme dans Star Wars. Et des bruits dans l'espace, c'est comme Georges en parlait. Est-ce que c'est possible le bruit dans l'espace ? Et puis en fait, quand il y a un vaisseau qui se dépressurise, est-ce que j'explose ou est-ce que j'explose pas? C'est un truc très bête. Voilà. Mais est-ce que dans les films, en fait, on nous raconte pas un peu n'importe quoi?
Mais alors, je fais un petit aparté, mais je crois que justement, il y a des BD, en fait, qui existent sur la science au Cinoche, en fait.
Oui, et alors, elles sont plus ou moins en lien avec, parce que.
D'accord.
Alors, pas directement, mais l'idée est un peu tirée de là. Et c'est vrai que voilà, c'est l'idée de vulgariser la science. Mmh. Et là, ils ont fait des vraies vidéos très, très sympas et surtout très drôles. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Bon, après, chacun son humour. Mais moi,
on connaît le tien.
Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça amusant et vraiment, je me suis dit, c'est bien parce que même si vous avez des enfants, par exemple, qui ont regardé Star Wars, vous pouvez leur montrer la vidéo pour qu'ils expliquent pourquoi, en fait, un sabre laser, c'est pas trop, trop possible et pourquoi on peut pas courir plus vite qu'un laser. Voilà, c'est très, très bête, mais voilà. Mais au moins, bon, ça casse un peu le rêve, mais ça les ramène vers la physique.
Le matérialisme.
Voilà, un peu de matérialisme. Mais bon, ça n'empêche pas de rêver. Et après, il y a une partie que moi, j'ai beaucoup aimé, et je terminerai par ça, c'est la partie recherche, enfin, deux parties qui sont un peu liées. La partie recherche, c'est-à-dire qu'ils mettent tout en ligne. Tout ce qu'ils font dans le cadre de leur recherche sur comment on vulgarise, tout est en ligne. Et tout est accessible. Et ça, c'est vachement cool. Parce que ça veut dire qu'en fait, ils permettent à l'ensemble des chercheurs de la planète, ou même à vous et moi, d'aller récupérer les articles qu'ils ont fait dans les revues scientifiques sur comment vulgariser facilement. Et en fait, ça a l'air de rien, mais ça a aidé beaucoup de gens à faire des formations ou des informations sur leurs propres recherches en s'appuyant sur ce qu'eux avaient découvert. Par exemple, faut pas avoir peur d'écrire une équation. Parce que ça peut rebuter les gens, mais en fait une équation ça peut servir aussi à s'appuyer pour pouvoir définir le reste. Faut pas avoir peur d'utiliser des mots compliqués si on les définit derrière. Faut pas avoir peur de mettre de la musique sur une vidéo, ça enlève pas l'attention. Et à un moment il faut enlever la musique parce que ça peut, vous voyez, c'est des trucs très très bêtes, mais c'est voilà. Et ils mettent tout. Moi j'ai trouvé ça vachement chouette en ligne. Vous pouvez tout lire en ligne. Et on se souvient quand on avait reçu Controversience, il nous avait parlé justement que l'accès aux publications scientifiques était très complexe. Donc moi je trouve qu'on peut vachement saluer l'équipe de la physique Autremonde qui fait un choix vachement sympathique, qui est de mettre totalement leurs travaux en ligne et de les rendre totalement accessibles. Et on voit qu'il y a une vraie démarche volontaire de leur part d'ouvrir la science au plus grand nombre, quoi.
Il n'y a pas eu des réactions des gens de ce milieu?
Non, parce que ça leur appartient, donc vous faites bien ce que vous voulez.
Okay,
par contre, c'est sûr qu'ils ne gagneront pas de fric.
Oui, c'est un peu
le truc. Hein. Voilà. D'ailleurs, l'aide de vulgarisation peut devenir en elle-même un objet de recherche, hein, comme je le disais, et du coup, ils expliquent comment ils ont eu l'idée d'en faire un objet de recherche avec l'idée première, toujours garder accessible ce que l'on fait, et on met en place. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est pas une mince affaire. C'est pas si simple de dire, on peut vulgariser du jour au lendemain, quoi. Et enfin, il y a une dernière zone que je trouve géniale, qui est la zone de téléchargement. Et là, je la trouve vraiment géniale, je le dis clairement. C'est une vraie caverne d'Alibaba. On trouve de tout, c'est gratuit et c'est téléchargeable. Alors, ça va de la vidéo qu'on peut diffuser après dans le cadre d'une présentation, par exemple, en passant par les photos, mais aussi des expos complètes. Vous pouvez télécharger une expo que vous pouvez après afficher. Voilà. Des pliages aussi pour créer certains trucs pour, par exemple, faire de l'optique. Des posters aussi que vous pouvez télécharger pour pouvoir afficher des posters dans des salles de cours ou même chez vous si vous êtes fan de la physique quantique. Non, mais je dis ça sans rigoler, hein, c'est très bien fait, c'est très beau. Et surtout, tout est en licence Creative Commons, c'est-à-dire comme les émissions de Radio Canu, hein, c'est-à-dire que vous pouvez toujours les utiliser tant que vous les citez. Voilà, c'est exactement. Et je trouve ça vachement, vraiment une très belle démarche. Donc voilà, moi je voulais vous parler de vulgarisation.fr parce que moi je peux que vous encourager donc à courir voir le site. Vous verrez qu'on se prend vite au jeu. Il y a parfois des jeux de pistes aussi sur certaines données, le froid par exemple. Alors, on commence par l'introduction, puis après il faut aller à un autre point. Puis il y a des petits jeux comme ça et c'est marrant parce que c'est vachement interactif. Et surtout, moi je vous invite à le partager parce que c'est assez rare les initiatives quand même de vulgarisation, surtout quand elles sont accessibles comme ça, vulgarisation.fr. Pas compliqué, hein. Et franchement, ça permet de se sentir un peu moins bête et des fois de comprendre des choses qu'on penserait totalement éloignées de nous, mais qui finalement sont assez proches de nos capacités cognitives, comme on dit. Voilà. J'espère que vous avez donné envie, en tout cas, d'aller gratouiller.
Personnellement, oui, Clara, je ne sais pas. Elle ne dit rien.
Non, Clara, non. En tout cas, voilà, c'était pour moi important parce que, comme souvent on le dit dans la causerie, on essaye souvent de ramener de la science et pas de ramener notre science, c'est pas la même chose. Et du coup, c'est un peu compliqué des fois pour nous. Et je trouve que, je le dis franchement, ça pourra peut-être même moi me permettre dans le futur de m'appuyer sur ce qu'ils ont pu faire dans certains domaines pour ramener m'armer ici en fait.
Mais oui, et puis ça sort en fait ces choses-là, ces savoirs, etc., des lieux où ils sont habituellement transmis. ce qui finalement exclut beaucoup, beaucoup de gens, parce que tout le monde ne va pas faire science, etc., etc. Donc ce qui fait qu'effectivement, enfin, et c'est marrant, parce que même avant, quand toi t'as dit, même pour vos élèves, en fait, c'est drôle, parce que c'est quand même, on est quand même vachement marqué par la notion de savoir égale structure éducative. Enfin, il y a quelque chose
En France, ça se transmet par la structure éducative.
Alors que c'est peut-être ça notre problème. Enfin, en tout cas, c'est peut-être vers ça où on devrait pousser, on va dire, les progressistes et autres personnes qui sont pour l'émancipation. C'est justement à faire sortir, en fait, ces choses-là. Parce que, bah oui, en fait, t'en avais parlé une fois, c'est des gens qui vont à l'université, déjà, c'est peanuts.
Ah oui, bien sûr.
Donc finalement, bah, c'est des savoirs qui restent toujours dans un milieu fermé. Et là, je trouve que c'est génial, là, en fait, de vulgariser sans appauvrir les choses.
Ah oui, mais c'est pas leur
but. Parce qu'on est toujours dans ce truc-là de, oh non, faut pas vulgariser parce que ça va perdre en substance. Alors qu'en fait, je pense pas. C'est juste que ça oblige le sachant, si on veut l'appeler comme ça, à remettre en question sa propre pratique et sa propre envie ou non de transmettre en fait ce qu'il sait.
C'est ça.
Et donc de se rendre compte de la position d'où il parle.
Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est vachement bien ce qu'il faut.
Mais grave.
Voilà.
On vous mettra peut-être 2-3 liens vers justement le zéro absolu, etc.
Pour
que ça puisse vous parler direct et que ça fasse une petite étape avant d'aller sur le site. On passe à
un peu de musique.
Allez.
Et vous êtes de retour dans La Causerie sur Radio Canu 102.2 ou sur radiocanu.org. Et voilà, et c'était RFH de Charlie James. Voilà, une petite musique électro un peu dark, bien sympathique. Voilà.
Oui. Et on continue donc.
Oui, alors, parce que je suis un peu perdu ce soir, parce que Stan n'est pas là tout ça. Et donc oui, on va passer une interview de Claire Ozias, voilà, par rapport à la sortie de son livre Trimard, Pègre et Mauvais Garçon. De mai 68, c'est une petite interview qui dure une petite quinzaine de minutes et on vous retrouve juste après.
Allons-y.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes.
Bien, alors une petite interview sur un banc rouge à la griffe de Claire Ozias pour son livre Trimard, Pègre et Mauvais Garçon de mai 68, je me trompe pas ?
Non, c'est bien ça.
Et donc, du coup, on va commencer par te demander qui es-tu, Claire Ozias ?
Bon, alors je suis née à Lyon, il y a longtemps de ça, et j'ai été élevée à Lyon dans une famille lyonnaise, en tout cas ma famille maternelle est entièrement lyonnaise depuis très très longtemps, Francheville plus précisément, et j'ai habité tant enfant à la Croix-Rousse, j'ai appris à lire et à écrire à l'école Victor Hugo à la Croix-Rousse. Et j'ai quitté Lyon au-delà de 30 ans pour Paris, puis Marseille, Lisbonne, et maintenant je vis à Paris. J'ai fait mes études à Lyon à l'époque, des études d'abord de sociologie et ensuite d'histoire à l'Université de Lyon, où je me suis spécialisée en histoire sociale de Lyon.
Et voilà donc comment on arrive à ton livre qui est donc plus centré sur mai 68, mais avec un angle d'approche qui est assez inhabituel, parce que généralement mai 68, on va nous parler de Daniel Cohen-Bendit du boulevard Saint-Germain, tout ça. Et toi, étonnamment, tu vas nous parler des trimards. Mais alors, c'est quoi les trimards ?
Alors, les trimards, ce sont des blousons noirs que l'on retrouve dans toutes les facultés occupées de France et qui ont d'effrayer, on va dire, les médias de manière sensationnelle. On a mis en avant leur folklore. Ils ont suscité beaucoup, beaucoup de commentaires amusés et d'imageries, notamment violentes. Et en réalité, par ailleurs, lorsqu'on parle de mai 68, on ne les mentionne jamais au titre de révolutionnaires comme les autres. Donc, c'est ça que j'ai voulu corriger.
Parce que pour toi, on a une vision un peu bourgeoise de mai 68, finalement. C'est-à-dire que on a les grandes figures, on a les grands... Enfin, ceux qu'on voit aujourd'hui encore dans les médias, qui nous rabâchent les oreilles qu'ils étaient des grands révolutionnaires, mais qu'on oublie un peu, finalement, ceux qui ont vraiment été dans ce mouvement-là et ceux qui l'ont porté. C'est ça, l'idée ?
Oui, j'aime bien cette image que tu viens d'employer, une vision bourgeoise de mai 68. Et c'est vrai, et je suis heureuse qu'on en parle aujourd'hui, donc 27 janvier, parce qu'au mois de mai, on sera complètement saoulés et plus personne ne voudra entendre parler de mai 68, qui sera un enterrement de première classe, d'après ce qu'on nous annonce, et recouvert d'un voile pudique et bienséant de bourgeoisie. Et c'est emmerdant, parce que c'est pas ça, mai 68. C'est quand même un grand moment politique, comme a écrit Jean-Pierre Duteuil, qui était un des leaders restés dans l'ombre, mais très très actif, autrefois et toujours aujourd'hui. C'est un grand moment politique, et puis ce sont des millions d'anonymes. Et hormis les quelques noms de personnes qui ont fait carrière en France, hormis les titres de responsables de groupements politiques, par exemple à Lyon, PSU, CFDT, etc., etc., qui ne sont pas forcément des stars, mais qui avaient un rôle important, hormis tous ces gens-là, il y a la foule des anonymes, dont nous étions tous, et nous sommes tous, et nous avons tous non seulement intérêt à le rester, mais la volonté de rester, parce que sinon il n'y a pas de collectif, et sans collectif il n'y a pas de mai 68.
Et ça, en fait, c'est moi j'ai un peu feuilleté ton livre, hein, avouons-le quand même. Et il me semble que tu rends quand même hommage à cette idée que il faut éviter la personnalisation d'une révolution et il faut au contraire la porter collectivement, tous ensemble et avoir ensemble, même avec nos différences, parce que finalement, quand tu parles de ces fameux trimards, ils avaient des méthodologies qui étaient les leurs, ils avaient des façons de parler qui étaient les leurs, mais ils étaient dans le même mouvement, finalement, que tout le monde, et au contraire, ils étaient même très puissants dans ce mouvement-là, parce que c'est ce que tu soulignes dans ton livre.
Ils étaient puissants au sens de leurs compétences particulières, qui étaient dans la mesure où c'est des gens, si tu veux. C'était évidemment des gens issus des classes populaires, qu'on appelle en langage politique le lumpenprolétariat, mais ce sont, en termes modernes, des années 60, des gens qui vivaient quelquefois à la rue, mais pas des SDF à plein temps. Ils avaient des familles chez qui ils habitaient. Mais quand le week-end, ils voulaient faire la fête avec leurs copains, ils dormaient sous les ponts, mais juste pour le week-end. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le SDF d'aujourd'hui. Hein. Et puis, c'était aussi des gens particulièrement malheureux pour certains d'entre eux qui relevaient de ce qu'on appelle l'enfance inadaptée, qui vivaient dans des centres, non pas de rétention comme on dit aujourd'hui, mais des centres de rééducation pour les délinquants mineurs. Et donc certains ont fui en mai 68 pour venir nous rejoindre à la fac. C'est-à-dire que la révolution, elle a fait son boulot d'ouvrir les portes à tous ceux qui avaient quelque chose à dire contre cet ordre de choses.
Et est-ce que tu as eu l'impression, justement, parce que ne cachons pas aux auditrices, auditeurs, tu as connu mai 68, est-ce que tu as eu l'impression, justement, qu'ils ont été reçus correctement ou que, justement, ils ont été un peu marginalisés de nouveau par un mouvement qui se voulait révolutionnaire?
Oui et non. Oui, ils ont été non seulement reçus puisque nous sommes allés les chercher pour les inviter à partager l'occupation de la fac avec nous. À ce titre-là, ils ont été bien reçus. Une fraction d'entre nous les a bien reçus, sans pour autant cacher qu'il peut y avoir des critiques, des dissensus, etc. Tout le monde n'était pas tout le temps d'accord, tout le monde ne savait pas. Mais 68, c'est une invention minute par minute. On ne connaît pas la réponse de la minute qui va suivre. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on se trompe des fois, on n'a pas tous la science infuse. Bon, voilà. Non, ils n'ont pas été bien reçus parce que tous les cadres bourgeois de mai 68, c'est-à-dire les étudiants propres sur eux, Encarte, l'UNEF, le PSU, la CFDT, pour ne parler que de ceux qui étaient favorables à mai 68, ne parlons pas des grosses instances qui étaient hostiles à mai 68. Tous ces gens-là, ils n'avaient pas imaginé qu'on puisse être aussi sauvage que ces trimards. C'était des gens, encore une fois, je me répète, propres sur eux, et donc, ils n'ont eu qu'une seule idée en tête, il faut les virer, s'en débarrasser, il faut les chasser. L'université est faite pour les étudiants, et il faut donc chasser ceux qui ne sont pas étudiants de cette université, qui est devenue le point central de commandement des occupations, de la ville politique, et plus du tout le lieu où on apprend et où on passe des examens, et elle doit le redevenir. Ça, c'était la position, on va dire, de la grosse majorité des gens.
Ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu soulignes justement une reprise en main, finalement, du courant de mai 68 par une forme de bourgeoisie, enfin, comme tu disais, les étudiants propres sur eux, et qui, finalement, vont essayer de donner une impulsion à cette révolte qui va dans leur sens, plutôt que d'aller dans le sens de ces fameux trimards dont tu parles, qui, eux, sont plutôt dans une envie de libération totale. C'est-à-dire libération, oui, impersonnelle et individuelle, mais aussi une libération de leurs conditions de vie et leurs conditions de travail pour certains, et que du coup, on donne l'impression que c'est là qu'il y a un mauvais virage. Enfin, ton livre donne cette impression-là, alors je ne sais pas si je me trompe, qu'il y a un mauvais virage qui est pris et qui perdure un peu aujourd'hui, j'ai l'impression, non ?
Ah ben, aujourd'hui, plus ça va, plus on restreint mai 68, bien entendu. C'est-à-dire que ce dont je parle a été complètement occulté par mes collègues, les gens qui écrivent cela, et continuera, et même probablement le livre va être planqué, caché, dénaturé, parce qu'il s'agit encore une fois de l'autre face hideuse de la révolution, celle qui fait peur, celle qui n'est pas présentable, celle qui est ébouriffée, hein, et donc la plupart veulent pas en entendre parler, parce qu'ils, ce qu'ils ne savent pas, c'est que sans sauvagerie il ne se passe rien. Rien du tout. Et donc on ne peut pas, effectivement, la révolution n'est pas, comme l'a écrit un copain, un dîner de gala. Voilà. Et alors, c'est pour ça que d'une part, c'est si ennuyeux, les livres qui sont écrits sur mai 68, qu'ils soient des livres de témoignages ou bien des livres de chercheurs, c'est très ennuyeux. On se rase, on n'arrive pas au bout tellement que c'est emmerdant. Et d'autre part, les projets de mouvements qui naissent ça et là au détour d'une loi travail ou que sais-je encore, eux aussi sont très ennuyeux parce qu'ils essayent de rester dans les clous. Donc là, on a perdu la substantifique moelle de l'événement. Voilà.
Parce que finalement, ce que tu démontres un peu au travers de ces portraits, on va dire, de personnes dont finalement on n'entend jamais parler, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que c'est collectivement qu'on construit, c'est ce que tu disais au début de l'interview, c'est collectivement qu'on construit finalement une révolution. Ça se fait pas tout seul, mais qu'il y aura toujours à un moment donné des gens qu'il faudra redescendre de leur piédestal pour revenir au collectif. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ta vision aujourd'hui, quand tu vois que même le Figaro rend hommage à mai 68. Est-ce que t'as pas un peu peur que finalement, on remette sur un piédestal que ceux qui arrangent la bien-pensance de 2018?
J'ai pas peur au sens où c'est téléphoné, c'est sûr que ça va être comme tu dis, la bien-pensance et même le Figaro. J'ai pas peur au sens où, il y a 50 ans de ça, mai 68, les pensées et les actualités ont évolué et on n'est plus dans la même vision de la guerre froide qu'on était à l'époque, et donc le libéralisme galopant s'aperçoit que il a tout à gagner à adopter une certaine vision de mai 68. Mais de fait, c'est un travestissement absolu. Mai 68 est une révolution, c'est pas un libéralisme, ça n'a rien à voir.
Et bien justement, on en arrive vers la fin de cette interview. Est-ce que tu as un message, toi, à passer justement, tu écris des livres, c'est pour passer des messages, comme on dit généralement. Est-ce que tu aurais envie de donner un message là, à la radio, pour les gens qui nous écoutent, des plus jeunes aux moins jeunes, tous ceux qui sont là, et qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui ?
Moi, je dirais aujourd'hui que même si l'actualité est très sombre, même si les perspectives politiques mondiales sont très sombres, et pas seulement à cause du libéralisme débridé qui s'annonce et qui n'est pas encore arrivé à son apogée, mais aussi à cause des pensées obscurantistes qui sont véhiculées par plusieurs groupes qui, certains, se font même passer pour des groupes de gauche. Donc moi, je reste évidemment une anarchiste, bien sûr, mais universaliste, évidemment. Et donc, je dirais à tous ces gens qu'il faut conserver, et nous gardons, le principe espérance. C'est Ernst Bloch qui a écrit le principe espérance. Et ce principe espérance, nous le gardons parce qu'il fait partie de la condition humaine. Donc, nous ne sommes pas vaincus, et l'avenir le dira.
Eh bien, merci Claire pour cette interview. Donc, je vous rappelle, Claire Ozias, le livre c'est Trimard, Mauvais garçon et pègre de mai 68, si je me souviens bien. C'est aux éditions des ACL, Atelier de création libertaire. Vous pouvez en trouver des exemplaires à la griffe. Comme on est à la griffe, on va quand même les citer. Et aujourd'hui, 27 janvier, tu vas donner une conférence autour de ton livre. C'est dommage, comme c'est diffusé le 28, bah, vous l'avez loupé, mais il y en aura d'autres. Merci encore.
Merci beaucoup.
Les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curé, ni de marchand, de policier, au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.
Et voilà, de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et ben c'était donc une interview de Claire Ozias qu'on remercie chaudement de nous avoir accordé cette petite interview, sous qu'elle l'a fait vraiment entre deux, entre son train et le début de son... sa présentation à la griffe, voilà. Et d'ailleurs, on essaiera, nous, sur le blog, de mettre en lien, parce que la griffe enregistre aussi les interventions de, bah, des intervenantes et intervenants qui passent. On essaiera de mettre le lien de cette intervention qui faisait à peu près 2 heures et qui est très, très intéressante aussi.
Oui, 2h16 même, je crois.
Voilà. Mais qui est très intéressante, où il y a un vrai débat autour de, bah, des différentes visions de mai 68, de celles qu'on essaye d'effacer, de mettre sous le tapis, hein, parce qu'elles dérangent un peu. Et puis de celles qui, sont mis en avant parce qu'elles arrangent un peu, donc voilà, c'est très très bien fait quoi.
Mais je trouve que c'est toujours intéressant en fait sur ces grands événements entre guillemets, mais c'est qu'en fait on présente souvent ça effectivement comme quelque chose d'assez uniforme en fait,
alors
qu'en fait jamais, mais enfin, et là j'ai presque envie de dire on voit la même chose aujourd'hui avec la ZAD par exemple, oui. Les ZAD, c'est-à-dire que il y a des gens qui se battent effectivement sur des lieux communs,
mais pas avec des idées communes,
mais oui c'est ça en fait, voilà. Et je trouve que c'est vachement intéressant,
mais
et
un
que...
but commun. C'est ça qui est compliqué.
C'est-à-dire ouais, que c'est et ça, encore c'est... le but commun, je suis pas sûr qu'entre les anarchistes par exemple et
Alternatiba par exemple.
Alternatiba non, ou même sans... je pense à l'époque les maoïstes etc.
Ah,
et
d'ailleurs... 68,
oui oui oui.
Ah non mais là ils se détestaient. Sauf qu'ils ont quand même avancé ensemble et c'est ce que Claire explique très bien, c'est que c'est un peu ce qui est problématique et surréaliste. Problématique parce que ça s'explique pas forcément, surréaliste parce que c'est du coup, ça va plus loin que ce qu'on imagine. Et voilà, et c'est ce côté, ça finit par avancer ensemble tout en gardant des différences très fortes et très marquées,
oui.
Quoi.
Oui.
Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à lire son livre, dont je vais le redire. Donc, il est un peu épais. C'est vrai, mais par contre, il est très 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 bien écrit. Et il est pas chiant parce qu'elle parle des livres qui sont chiants. Et souvent, là, comme c'est des témoignages et c'est beaucoup d'interviews, c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui vous parlent de ce qu'ils ont vécu en 68.
Oui, parce que, elle le dit pas là, mais effectivement, enfin moi j'ai pu écouter son intervention à la griffe. C'est effectivement en fait, c'est des recueils de, enfin, elle a recueilli des témoignages de personnes qui étaient là en 68.
Oui. De ses copains, comme elle dit.
Voilà.
Parce qu'elle le dit dans le livre aussi, c'est ses copains, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vocation à dire que c'est autre chose, parce qu'elle dit de toute façon on ne peut pas faire un panel représentatif. Voilà, c'est des gens avec qui elle militait en 68 et avec qui elle a pris le... Et d'ailleurs elle se rend compte qu'ils n'ont pas tous vécu la même chose. Mmh. Pourtant c'était les mêmes événements, donc c'est très intéressant.
Oui, enfin, je trouvais ça intéressant son côté, enfin là où elle appuie sur le lissage en fait des choses, c'est-à-dire qu'on veut bien que tout le monde participe aux choses, mais dès que ça devient un petit peu hors du cadre bourgeois propre avec de bons vocabulaires,
quand ça rentre dans la sauvagerie comme elle dit.
C'est ça, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui, en fait.
Oui,
quoi.
Tout à fait.
Enfin, je veux dire, j'ai le souvenir de reportages, même sur des ondes rebelles, qui finalement coupaient des mots parce qu'ils disaient des insultes en parlant de, par exemple, Marine Le Pen, etc. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi accepter ça, quoi. Tout le monde sort pas avec des bagages de 3 ans d'université, etc., quoi. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant. Enfin, ouais, bref.
Donc, c'est le retour des trimards. Mettons les trimards en avant.
C'est ça.
Et voilà. Donc,
ils ont pas disparu, en fait.
Non, tout à fait, ils sont toujours là. Donc Claire Ozias, donc c'est les trimards, pardon, Pègre et mauvais garçon de mai 68, c'est aux éditions des ateliers de création libertaire, voilà, et je vous invite à vous le procurer, surtout que pour vu la somme que c'est, il est pas très cher, il fait 18 euros, ce qui est pas donné, mais c'est un livre assez
oui,
épais, il fait 500 pages hein, quand
oui,
même,
c'est ça, ouais.
Voilà, mais sinon vous pouvez le trouver assez facilement à droite à gauche, je sais qu'il y a des lieux où il a été déposé pour être lu, donc voilà, n'hésitez pas. Donc Claire Ozias, trimards, Pègre et mauvais garçon de mai 68, un peu de musique.
Et vous êtes de retour dans la causerie. Enfin, on est toujours, même quand il y a la musique, quoi. Mais
c'est vrai, on dit que c'est bizarre. De retour direct, on pourrait dire.
Oui, c'est ça, retour dans les studios. Je ne sais pas. Enfin, même la musique par des studios. Enfin, bon, bref. Donc, on vient de s'écouter le titre Lone Wolf de Mademoiselle, qu'on avait déjà pu écouter aussi dans la causerie, mais enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, c'est un des titres les plus courts. Donc, vraiment, je vous invite à découvrir tout le reste de son œuvre, parce que souvent, ces morceaux font 6-7 minutes. Et c'est toujours un peu comme ça, électro. Dark, un peu, enfin c'est vraiment très très bon. Et ben la suite.
Ouais, juste une.
Ah oui, tu voulais faire une mise au point.
Juste une mise au point.
Juste une mise au point.
C'est ça, sur les dernières images de Navi.
C'est ça.
Non, en fait, je voulais juste faire une petite mise au point parce que j'ai reçu des messages de gens qui semblaient, par exemple, qu'il faudrait que je me réjouisse quand on veut interdire ou censurer des moments artistiques, parce que j'ai dénoncé ici, par exemple, un film qui était sur Gauguin et qui passait sous silence le côté pédophile de Gauguin, ou parce que j'ai parlé aussi d'Hamilton ça, le photographe,
oui, voilà, David Hamilton.
David Hamilton, et voilà. Et donc, en fait, ces personnes semblent penser que je veux aller dans ce sens-là. Et j'avais envie de rectifier ça parce que non, pas du tout. En fait, quand je parle de tout ça, c'est pour armer les gens. C'est-à-dire que quand on va voir une œuvre, il est important de connaître le contexte d'une œuvre, savoir comment, qui était la personne qui l'a produite, comment, dans quelles conditions, savoir si ce que vous regardez était effectivement des choses que les gens voulaient faire ou si on les a contraints à les faire. En fait, c'est juste faire de l'histoire et se poser les choses. Mon idée n'est pas de censurer, d'appeler à la censure, mais bien au contraire, d'appeler à s'armer et d'appeler à l'éducation. Et c'est un vilain mot, l'éducation, mais plus on est éduqué dans l'art et dans tout d'ailleurs, et plus en fait on est capable d'esprit critique. Et quand on a l'esprit critique, il n'y a pas besoin de censurer. Parce que de nous-mêmes, en fait, on se dit, bah, c'est un peu idiot d'aller continuer à aller voir cette œuvre-là. Ou alors on rappelle aux gens que bah, c'est pas terrible de regarder ça. Ou on rappelle le contexte. Ou on dit, bah voilà, le film Le Dernier Tango à Paris, ah, il est magnifique, mais bon, il y a quand même un viol dedans. Voilà. Et donc, est-ce qu'on doit continuer ou pas à regarder ce film? C'est une question d'éthique. Et moi, je suis pas pour la censure, je suis pas pour qu'on nous dise ce qui est bon ou pas pour nous. Je suis pour qu'on puisse se dire nous ce qui est bon ou pas pour nous et qu'on s'arme nous en fait pour savoir individuellement ce qui est acceptable à notre niveau ou pas. Mais je trouve que la censure est une défaite et pas du tout une victoire. Et quand on en est à censurer, en fait, on a perdu parce que ça veut dire qu'à un moment donné, la raison a perdu et que ce qui gagne, c'est l'émotion. Et l'émotion, c'est jamais un guide terrible, parce que ça peut aller dans le très bon sens et dans le très mauvais sens. Et j'ai toujours préféré la raison à l'émotion, et j'ai toujours préféré l'éducation à la censure. Voilà, je voulais juste faire cette mise au point.
Oui, mais surtout que c'est un truc très en vogue à gauche, à l'extrême gauche, la censure. Alors quand ça vient de l'État, bon, bah voilà, on le sait. Mais après, quand t'as des syndicats, par exemple, d'étudiants solidaires à Paris qui veulent faire interdire une lecture, etc.
Moi, je trouve que, et d'ailleurs, je reviens à Claire Osias qui en parle aussi très bien dans Mai 68, où elle dit, en fait, sans confrontation d'idées, sans finalement désaccord, dissensus, voire même engueulade, en fait, on n'avance pas, quoi. Et il faut arrêter de rêver, c'est pas dans un monde aseptisé qu'on avancera. On fait pas avancer une idée juste parce qu'on décide que l'autre n'a pas le droit de parler. C'est complètement con.
Mais c'est ça. Et puis, enfin, comment tu peux penser, parce que c'est toi qui, d'un coup, a une forme de pouvoir censurer, que d'un coup la censure deviendrait donc bonne, juste, équitable, enfin j'en sais rien. Ouais. Mais c'est toujours, il y a vraiment un relent assez dégueulasse dans certains milieux d'extrême gauche et anarch.
Mais dans tous les milieux en fait. Moi je trouve que il y a ça, mais en fait, pour moi le réflexe de censure, alors il est d'autant plus embêtant quand il est dans des milieux anti-autoritaires parce que il est pas logique. Et le problème c'est que il est dans tous les milieux, c'est un réflexe en fait de pauvreté d'esprit. C'est-à-dire c'est le côté j'enferme comme ça je vois pas, mais c'est un peu l'idée de la boîte de Pandore, quoi. On met dans une boîte tout ce qu'il y a de mal, puis on espère que personne ne l'ouvre jamais, parce que comme ça, et c'est pas comme ça en fait qu'on avance très clairement pas, quoi. Et je trouve que dans cette période justement où on va commémorer 68, il y a quand même un slogan dont tu vas te souvenir, il est interdit d'interdire, qui est un slogan surréaliste, mais qui n'est pas idiot. C'est-à-dire que réfléchir à l'idée qu'il est interdit d'interdire, ça veut juste dire qu'il faut s'armer intellectuellement pour ne pas avoir besoin d'interdire. C'est ça que ça veut dire, ce slogan qui paraît comme ça. Parce que tout de suite, surtout à droite, on vous dit, ah, il est interdit d'interdire. Voilà. Mais c'est très, non, en fait, c'est juste qu'il veut dire, armons-nous pour ne pas avoir besoin d'interdire. Et moi, je suis plus dans cette optique-là. Bah, voilà, je voulais le rappeler.
La censure, ça coupe très court au débat.
Oui.
Parce qu'on voit peu les arguments des autres. Et puis, merde, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Et surtout, la censure, aujourd'hui, elle va même à réécrire l'histoire, à effacer des choses, à ne pas vouloir parler de certaines choses. Et pour moi, en fait, non, il faut pas, quoi. Parce qu'à partir du moment où on commence à cacher des choses, bah, les choses se répètent. C'est une sorte de constante historique.
C'est une certitude, effectivement.
Autant je vomis le roman national, autant parce que je trouve ça idiot, c'est une réécriture de l'histoire purement patriotique et nationaliste, autant je vomis aussi tous ceux qui veulent pas qu'on parle de certains pans de l'histoire, parce que ça pourrait heurter les gens qui vivent aujourd'hui, parce que je trouve que l'histoire elle est dégueulasse par moment, mais il faut la regarder en face.
Ah mais c'est l'épuration historique, elle est dégueulasse. Voilà. De toute façon, on peut pas faire comme si les choses n'avaient pas existé.
Exactement.
Enfin, c'est falsifier les choses, et je crois pas que ça serve grand l'intelligence humaine et l'esprit critique, quoi. Je pense pas, quoi.
Je voulais faire cette mise au point parce que ça m'inquiétait de recevoir des messages comme ça.
Mais on peut aussi être écouté juste par des gens qui...
Qui n'ont rien compris, oui, peut-être. Non, mais c'est pas forcément vrai.
T'as pas appelé la censure, donc ils ont mal compris, quoi. Donc, je peux
comprendre des fois qu'on puisse le lire comme ça, et je voulais rappeler que c'était pas du tout le propos. Voilà. Mais ça me tenait à cœur de le dire, voilà. Désolé si c'était un peu auto-centré.
Mais cette émission est un peu auto-centrée. Non, on plaisante. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe...
Bah quand même, Stan n'est pas là, mais on va passer son titre quand même. Ouais,
ah ouais, c'est ça. Ouais, allez, bah oui. On passe son titre.
95 and my father was still alive. Hip hop hit my heart and I started to feel the vibe. I'd listen to Nas, spit rhymes too damn correct. I can't forget my donkey style and my Wu-Tang cassette. See, I was only 10, holding the pen, hoping to find schemes, rhyming over and over again. At 13, I had a crew, we flowin' hang out, and that's how I started rapping with the homie Bang Pow. He went his way and I went mine. He switched to turntablism, I perfected my rhyme. A decade later, we met again and said, what up? We got to get together from tear the stage the fuck up. About enterprising or don't making, but we wanna say thanks to you folks for donating. Peace to all the reviews and dope ratings. For those to bend they scold to this till they don't ache it. Thanks to y'all, we gon' keep feasting off MC and we gon' keep performing, beat making, beasting for a reason. Peace to all you people, Eastern European, Swedish or Norwegian, Aussie, Asian, even North Korean, France, Germany, US and the UK, Africa, Mexico, and even kiss on your Uruguay. Chill out and bump this, cause this is a new day. And haters, we couldn't give a shit about what you say.
Oui, pardon. Il n'était pas coupé le titre. J'ai oublié.
Eh ben, bravo. Eh ben, retour vite fait pour faire le tour.
On a écouté quoi déjà ?
Ah oui, pardon. Ouf. Punaise. On a écouté le groupe The Eponyme avec le titre Child Bump.
Voilà.
Voilà. Et donc, on va faire un tour rapide des brèves à venir pour la semaine.
Là, je commence par ce qui est toute la semaine, donc toujours la permanence à l'Union locale CG, à l'Union départementale, pardon, CGT pour les travailleurs et travailleuses sans papier qui auraient besoin d'aide. C'est tous les jours de 10h à midi et c'est 215 cours Lafayette dans le 6e.
Et il y a aussi la permanence à la Lutine.
La permanence juridique, ouais, qui est donc tous les lundis soirs de 18h30 à 20h. Là, c'est plus large, hein, c'est pour les travailleurs et travailleuses, mais c'est aussi pour les personnes sans papier et leurs aidants. Voilà.
C'est ça, et la Lutine, c'est toujours au 91.
91 rue Montesquieu, pardon, dans le 7e.
C'est ça. Et mardi 30, il y a une journée nationale de grève et d'action dans les EHPAD, qui sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il y a plusieurs rassemblements, il faut regarder parce que logiquement, vu que c'est national, vous en aurez aussi dans d'autres endroits si vous nous écoutez ailleurs que Lyon. À Lyon, ça se passera à 11h, donc mardi 30, devant la préfecture. Et il y a un autre rassemblement à 17h cette fois-ci, à la sous-préfecture, enfin devant la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône. Donc voici déjà deux rendez-vous pour mardi. Et le suivant, on en revient sur la notion de partage de savoir, etc. C'est mardi, le 2 février. Alors ça se passera de 10h à 12h30 dans les locaux de l'université au 18 rue Chevreul dans le 7e. Salle 604 au 6e étage. Et voilà, mais en fait c'est le réseau des géographes libertaires en fait qui font une présentation et un débat sur les luttes pour le droit au logement et du municipalisme à Barcelone pardon et Madrid en fait. C'est revenir un peu sur ces mouvements qui ont pris le pouvoir entre guillemets dans ces villes-là.
Ah non, qui ont aboli le pouvoir justement. Le municipalisme, c'est l'abolition du pouvoir.
Oui. mais c'est pas que enfin c'est pas que ça mais enfin voilà, donc il y aura ceci sur donc vendredi le 2 février de 10h à 12h30. Voilà. Mais c'est dommage que ça se passe dans ces horaires-là, c'est pas forcément ce qui est le plus accessible à toutes et tous.
Mais ils font un peu ce qu'ils peuvent, je pense aussi pour avoir des salles. C'est un peu compliqué.
C'est toujours le problème les salles. Et ben on a fini, on va se quitter Avec quoi? Ah oui, avec quoi on se quitte?
Avec Cream on Rasatat.
Ah bah oui, mais c'est ton choix. Il faut que tu le dises aux auditrices et auditeurs, non?
Oui.
Ok, bon bah non alors.
Et, ben, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine de 22h à 23h, comme d'habitude, la causerie sur Radio Canu.
Le dimanche.
C'est ça. Et des bon bisous. Courage pour la semaine prochaine, pour la semaine à venir, pardon. Des bisous, pardon.
Salut.
Ciao. We'll be right back.